Luc 22, et je lis à partir du verset 14. Voilà ce que Luc nous dit. L'heure venue, il se mit à table, Jésus, et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Il se leva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même que celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une, car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi, il a été compté parmi les malfaiteurs, et ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Avant de passer au message, nous chanterons un chant d'humiliation qui vous préparera aussi à la scène. C'est le 269 que nous chantons dans un esprit de prière. Nous nous courbons ô notre Dieu, ô notre Père. Notre prière est faite. dépasse notre dignité. Hélas, nous faisons tous partie de nos parents et nos enfants d'une humanité pervertie dès le commencement des temps. Après avoir reçu ta grâce, souvent encore nous t'offensons. Quand l'adversaire nous enlace de ses coupables séductions, donne-nous, Seigneur, ta victoire par le secours de ton esprit. Transforme-nous de gloire en gloire à ton image, ô Jésus-Christ. Luc chapitre 22. Comment vivre désormais à la lumière de la croix? Parce que la croix de Jésus-Christ change tout, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer que ses disciples puissent vivre comme avant, une fois que les prochaines 24 heures, les prochains 3 jours ont lieu? Certainement pas. Tout change. Et le Seigneur nous donne 5 choses importantes dans cette entrevue avec les disciples qui nous touchent vraiment aussi directement dans un sens que. Nous allons lire la première chose dans les versets 14 et suivants. 4 choses que nous devons avoir dans notre vie en allant de la croix au retour du Christ. Donc, je prends le temps de relire les versets 14 à 20. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il parle de son retour et du moment où le vrai festin que la Pâque préfigure aura lieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et dans ces termes les plus solennels et frappants, Jésus est en train de dire, « Je pars, c'est fini. » Et maintenant commence ce laps de temps entre ma venue glorieuse au début et ma venue glorieuse de la fin. Je vous dis, les choses vont changer radicalement pour vous. Et voilà comment vous devez vivre cette vie changée. Verset 19, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Elle leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Pour chacune de ces cinq points, je voudrais vous donner quelque chose que les disciples n'ont pas réalisé, n'ont pas compris, car nous aussi, nous vivons dans cet oubli, dans cette ignorance terrible. C'est terrible ce qu'ils ne voient pas ce soir-là. Et deuxièmement, je voudrais vous montrer une marque de la bienveillance, de la tendre bonté de Jésus-Christ envers les disciples et envers nous. Et troisièmement, je voudrais vous montrer ce que nous devons faire nous-mêmes. Donc, nous sommes en train de parler du premier point. Nous devons aller vers l'avenir, vers l'éternité, avec premièrement la foi dans le Sauveur crucifié. Qu'est-ce qu'ils ne réalisent pas? Ils ne réalisent pas que l'accomplissement de la Pâque de l'Ancien Testament est en train de se passer devant leurs yeux. Ils sont vraiment ignorants, mais Jésus leur dit: Je ne la mangerai plus, cette Pâque, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ensuite, il va dire à la fin: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue, ce pain et mon corps qui est donné pour vous. Cet agneau de la Pâque, c'est moi. Et c'est maintenant que la vraie libération de l'enfer éternel, de nos péchés, va se faire par un miracle beaucoup plus grand que la traversée de la mer Rouge. Donc, c'est facile pour nous aussi de ne pas réaliser dans quel temps nous vivons, que nous sommes des gens beaucoup plus miraculés que les gens qui sont sortis à travers cette mer rouge, et que la libération dont nous vivons, ce que nous sommes, et là où nous allons, est incroyable. Jésus leur montre sa bonté, sa bienveillance. Dans le verset 15, il dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est assez surprenant. Il est Dieu le Fils. Il sait qu'il vient du Père et il va vers le Père. Et le glorieux monde éternel du Père. Et pourtant, il dit: J'ai désiré vivement être avec vous. Le Christ veut vivement être avec nous. C'est ça le salut. Le salut, c'est simplement que Dieu nous aime tellement, malgré ce que nous sommes, qu'il désire vivement être avec nous. On peut penser à cette grand-mère qui désire si vivement être avec son petit-enfant de 4 ans. Et si vous avez vu des grands-parents, c'est un désir vif. Pourquoi? Parce que elle aime beaucoup des conversations avec des enfants de 4 ans? Non, non. On ne peut pas expliquer pourquoi la grand-mère a une envie tellement forte d'être avec cet enfant. Sauf que c'est l'amour. Nous ne pouvons pas expliquer cette réalité ce soir-là où le Christ dit avec émotion dans sa voix: J'ai désiré vivement être avec vous. Manger cette Pâque avec vous. Il va encore plus loin et il leur dit que ils vont dans le verset 29 et 29, c'est pourquoi Dieu dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Il y a eu des fois dans notre vie, peut-être, où nous avons eu des moments de proximité avec Jésus-Christ, de proximité toute particulière. Et si nous les avons eues, je sais que pour moi, j'ai essayé de compter un jour, j'imagine que j'ai pensé délibérément à certains moments dans ma vie 7000 fois. Depuis presque 40 ans, mon souvenir va presque tous les jours à certains moments de ma vie, surtout quand j'étais jeune chrétien, où la présence du Christ et son amour pour moi étaient tellement réels et puissants que je ne pouvais pas croire qu'une telle sorte d'amour existait, parce que ça me semblait complètement différente du monde entier. Et mon cœur a envie de retrouver ce sauveur et son amour. Je comprends la phrase en Ésaïe, ton nom est ton souvenir et le désir de nos âmes. Car si vous avez une fois goûté de l'amour du Christ, ce Christ qui désire vivement être avec nous, vous ne pouvez jamais oublier. Et c'est pourquoi le Seigneur désire vivement être avec vous, mais désire aussi que eux, ils répètent désormais, à partir de maintenant, un rite pour mettre dans leur souvenir sa présence et son salut. Donc Jésus institue, vous l'avez vu dans les versets que nous venons de lire, la scène, le pain et le vin. Et grosso modo, il nous dit, désormais, constamment, je désire que vous vous rappelez de moi d'une manière spécifique. Ne vous rappelez pas de Christ de n'importe quelle manière. Je veux que vous vous rappelez de moi sous les emblèmes de la mort du calvaire. C'est comme ça que je veux que désormais vous vous rappelez de moi, comme votre sauveur mourant pour vous. Ah, c'est comme ça que je veux bien me rappeler de lui. Et donc, nous devons tâcher, non seulement quand nous avons la scène, mais constamment nous rappeler du Christ comme le sauveur de nos âmes, le sauveur crucifié. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Deuxièmement, non seulement devons-nous aller vers notre patrie avec la foi dans le Sauveur crucifié, mais aussi nous devons adopter une vie de service humble par loyauté au Sauveur crucifié. Nous lisons les versets 22 parce que quelque chose d'étrange se passe ce soir-là. Le Fils de l'homme, dit Jésus, s'en va selon ce qui est déterminé. Et maintenant le sujet change. Ce n'est plus lui, ce qu'il fait, le souvenir de lui, mais c'est ce qui va se passer ce soir-là de terrible. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui allait faire cela? Qui peut trahir Jésus? Il s'éleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Est-ce que vous comprenez le lien entre les deux choses? Nous pouvons très facilement voir comment on commence avec la question, qui va trahir Jésus? Pas moi, parce que moi j'ai déjà montré que je suis fidèle, mais moi j'ai fait plus que toi. Et puis ça finit par être une conversation au sujet de qui est le plus grand. Les disciples ne réalisent pas la trahison et les reniements horribles qui vont arriver. Et nous aussi, nous sommes très ignorants parfois de ce que c'est que cette lutte, cette guerre terrible chrétienne. J'ai entendu cette semaine encore au sujet d'un pasteur qui a chuté, mais d'une façon difficile à croire. Et maintenant, il est face à un procès pour la pédophilie. Pasteur évangélique. J'ai des amis, j'ai trop d'amis qui sont horriblement tombés. Et je connais des personnes qui semblent être très attachées au Sauveur à un moment donné et qui l'ont renié complètement. Ne soyons pas si ignorants au sujet de Satan et cette guerre. J'ai presque 60 ans et avec chaque pas de plus, je prie et je dis Seigneur, garde-moi de chuter à la fin. C'est facile de commencer bien. C'est dur d'arriver jusqu'au bout. Mais ils confondent la manière d'arriver au bout. Et la deuxième marque de la bienveillance du Seigneur envers eux, c'est que c'est de les guider dans le bon sentier pour ne pas trahir, pour rester loyal. Et il leur dit ceci. Il leur dit, quand ils pensent que la manière de ne pas trahir Jésus, c'est d'être grand, c'est d'accomplir de grandes choses et de montrer que je suis ferme. Jésus dit non. Il dit au verset 25, Jésus leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus leur montre que le sentier, le chemin vers la persévérance, la loyauté sans faillir n'est pas un chemin de grande prétention. Seigneur, je vais jamais te renier comme les autres, dit Pierre. C'est pas le chemin. Le chemin, c'est de s'humilier et de prendre la place du plus jeune et de servir. Quand je pense à ceux que je connais qui sont tombés, parfois des pasteurs, des serviteurs de Dieu, je ne peux pas me rappeler d'un seul au sujet duquel je peux dire il était empreinte d'une attitude d'humilité et de service, de serviteur. J'en connais qui étaient prédicateurs très doués, hommes très actifs, preneurs d'initiatives, qui sont tombés, mais j'en connais pas un seul dont on était marqué par son humilité et son attitude de service humble qui ensuite est tombé. Nous voyons donc notre devoir. D'abord, se souvenir du Christ lui-même crucifié par service humble. Et puis le suivre dans le même chemin. Troisièmement, foi dans le Sauveur, service humble pour le Sauveur, espérance dans le salut futur du Sauveur. 28. Vous, et maintenant le sujet change encore, c'était avant celui, qui me trahit. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et une autre version dit, vous, vous êtes ceux qui sont restés avec moi dans mes épreuves. J'aime mieux. Ce n'est pas simplement persévérer dans le sens de persister dans un truc, dans quelque chose. Non, c'est le fait de rester avec moi dans mes épreuves. C'est ça, la vie chrétienne. Et le Christ dit ceci, c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est une manière imagée de dire que ces apôtres vont avoir un rôle de responsabilité sur le peuple de Dieu dans l'âge à venir. Ah oui. Et nous le retrouvons encore dans le livre d'Apocalypse. Les 24 vieillards, 12 patriarches d'Israël dans l'Ancien Testament, 12 apôtres dans le Nouveau, qui siègent et qui gouvernent le peuple de Dieu. Les disciples ne réalisent pas suffisamment ce soir-là que cette vie n'est qu'un court passage, un pèlerinage à travers une sombre vallée. C'est difficile de réaliser, n'est-ce pas? Il y a de bonnes choses dans cette vie. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur est avec nous et nous oublions que à tout prendre, lorsque nous prenons du recul et lorsque nous regardons, que la Bible nous dit que nous sommes comme des vapeurs, que ce monde est un monde de ténèbres et c'est seulement maintenant que l'aube est en train de pointer, mais nous vivons dans un monde qui est mort parmi des nations qui sont mortes, des sociétés, des civilisations qui sont enténébrées sous la coupe du diable, et que nous allons vers un autre monde complètement. Et que notre plus grand désir, c'est de nous extraire de ce monde un jour. Mais ils n'ont pas réalisé. Donc Jésus décrit sa vie sur terre. Il dit, vous êtes ceux qui sont restés avec moi dans mes épreuves. Cette vie était pour lui mes épreuves. Et il est plein de bonté et bienveillance envers eux, tellement vite à remarquer la moindre bonne chose qu'ils font. Regardez, il dit, vous êtes ceux qui sont restés avec moi dans mes épreuves. N'oubliez pas, ils viennent de leur couper la parole au milieu de leur dispute, qui est le plus grand? Ils viennent d'avoir eu besoin de répéter encore, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils donnent cet enseignement, que le plus grand, c'est celui qui sert. C'est lassant pour un pasteur de devoir revenir sur certaines choses comme si vous n'avez rien entendu. Rien compris. Et pourtant, le Christ, il est complètement différent. Il est en train de remarquer, je ne sais pas, ils cherchent tout leur comportement ce soir-là. Et vraiment loin de ce qu'on aurait souhaité. Et ils trouvent la seule chose. La bonne chose, comme une aiguille dans une boîte de foin. Mais c'est vraiment la bonté du Seigneur que le Seigneur sait voir et reconnaître et approuver le moindre bien que nous avons. Je ne sais pas si vous savez que le Seigneur est comme ça. Parfois, nous pensons que le Seigneur ne voit que nos péchés. Il est comme un professeur français qui ne parle aux étudiants que lorsqu'ils font quelque chose de critiquable. Et nous voyons le Christ comme cela. Mais en fait, ce soir-là, ça se passe autrement. Vous êtes là en tant qu'apôtre et il vous dit, vous êtes ceux qui sont restés avec moi dans mes épreuves. C'est pour ça que je vais vous donner un royaume. C'est absolument formidable, l'amour, la bienveillance, la grâce, la bonté du Seigneur envers nous. On pourrait dire que le bien qu'ils ont fait en restant avec lui est tellement petit. Et il sait que tous, ils vont faire le contraire ce soir-là, ils ne vont pas rester avec lui. Et pourtant, il relève ce qu'ils ont fait de bien et il dit, je suis très content de vous. Vous êtes pour moi votre identité même. Vous êtes ceux qui sont restés avec moi. Si nous pouvions comprendre le cœur du Sauveur mieux sur ce point, je crois que ça nous changerait beaucoup de choses. Et il les récompense de façon disproportionnée. Il leur dit qu'il va leur donner un royaume, ils vont être assis, nous serons assis à la table, mangeant et buvant un jour avec lui dans son royaume. Et pour eux, ils vont siéger sur des trônes au-dessus des 12 tribus d'Israël. La bonté du Seigneur. Que devons-nous faire? Nous devons tâcher de vivre assurés de la faveur du Christ et de ne pas vivre avec lui comme si il était un juge sans patience. C'est très, très nuisible pour notre vie spirituelle. Il doit nous corriger et nous dire que non. Je vois le bien. Je vois le bien. Je vois ce que vous êtes. Je vois votre foi, votre amour, votre espérance. Et je suis content. Bien fait, serviteur fidèle. Et je pense aussi que nous devons vivre dans cette espérance de cette récompense future. C'est pourquoi il leur dit cela, n'est-ce pas? Qu'ils doivent vivre dans l'anticipation et dans l'attente de cette récompense complètement imméritée et disproportionnée. Et nous devons avoir hâte d'être réunis avec le Christ. Nous savons que nous mangeons avec lui dans l'esprit aujourd'hui, mais il nous dit le vrai moment, c'est lorsque nous serons ensemble dans le royaume encore. Et nous ne pouvons pas cheminer vers le Christ sans cette espérance constante, sans y penser, sans être touché vraiment par cette immense réalité que je serai avec le Christ un jour, avec le Sauveur. Quatrièmement, endurance dans les épreuves par le Christ, par le Sauveur intercesseur. Nous lisons au verset 31. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois me connaître. Ce qu'il ne réalise pas ce soir-là, d'abord, c'est que une foi qui n'est pas éprouvée ne vaut pas grand-chose. Satan a prié. Je sais pas si Satan prie beaucoup, mais il a prié. Il a demandé au Seigneur quelque chose. Il a demandé au Seigneur la permission de passer au crible ses disciples. Et vous savez que même Satan ne peut recevoir quelque chose sauf si c'est selon la volonté de Dieu. Pour une fois, il a prié selon la volonté de Dieu, à moitié, parce que son but était de détruire ses disciples. Mais la volonté de Dieu est que votre foi soit éprouvée, que vous soyez passé parfois au crible. Pourquoi? Parce que dans le monde moral de Dieu, toute bonté doit être éprouvée, triée, et doit prouver son authenticité. Et dans ce monde déchu, toute bonté doit être purgée et purifiée de ses saletés. Et vous en avez des saletés dans votre foi, dans votre espérance, dans votre amour, dans votre attitude de renoncement de soi qui est parfois tachée d'une attitude de préservation de soi. Non? Est-ce que vous suivez l'agneau en vous livrant à lui, en disant ce que tu veux faire avec moi, je suis à toi pour vivre et pour mourir. Et il y a beaucoup de choses à purifier, à enlever, et par des épreuves parfois très rudes, parce que c'est surnaturel, ces épreuves. Pierre ne sait pas qu'il n'y a pas qu'une fille servante qui lui pose la question. Est-ce que tu étais disciple de Jésus? Il y a un monde surnaturel qui s'abat sur lui. Il y a la puissance invisible de Satan qui envahit son cœur pour susciter une peur, pour ébranler sa foi, pour le plonger dans un sentiment de culpabilité, pour qu'il puisse, si possible, ne plus même croire à la grâce et à l'amour du Christ pour lui. Mais Jésus montre beaucoup de bienveillance et de bonté pour eux encore ce soir dans cette affaire-là, et il nous montre comment cheminer à travers nos épreuves jusqu'à ce que nous soyons à lui. Il dit au verset 32, mais j'ai prié pour toi. Satan m'a prié, mais j'ai prié pour toi. Satan a prié contre toi, mais moi pour toi. Afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, le mot c'est converti, affermis tes frères. Le Seigneur est tellement bon, il sait combien et comment nous allons tomber à travers ces épreuves. Et il dit, je vais vous prendre et je vais même convertir vos chutes en sanctification. Pierre ne sera jamais plus le même après cette chute. Parce que la chute, le Seigneur s'empare dans son amour de cette chute, de ce péché. Et il utilise ça pour bénir Pierre, pour qu'il soit moins sûr de lui, pour que quelque chose meure en lui qui doit mourir, cette confiance de soi. Et Pierre va être beaucoup plus chrétien après ces événements. Parce que le Seigneur intercède pour nous constamment. En ce moment, pour toujours. Et il intercède et il prie que notre foi ne défaille pas, mais qu'elle soit plutôt fortifiée. Donc, à travers nos épreuves, ce qui doit se passer chaque fois, principalement, parce que ça produit le reste, c'est que notre foi dans le Christ, comme un sauveur gracieux envers le pécheur que je suis, Parce que chaque épreuve me montre, m'expose. Et je découvre plus profondément combien le Seigneur est miséricordieux. Et quand je découvre ça, comme Pierre imaginait après les 3 jours, quand le Seigneur vient vers lui, et nous savons qu'il est venu individuellement vers Pierre, la rencontre n'est pas relatée dans le Nouveau Testament, mais la rencontre est mentionnée par Paul quand il dit il était apparu à Simon. À Simon. Et qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, sans doute, il y avait ce mot qui fait vibrer le cœur de tous les croyants. Tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Donc le Seigneur, je disais, faisait découvrir à Pierre quelque chose de beaucoup plus profond dans sa miséricorde. Et Pierre doit maintenant aller vers les autres avec cette découverte et fortifier leur foi dans le même sauveur des pécheurs. Ça va se passer comme ça jusqu'à ce qu'ils reviennent. Vous et moi, on est en train d'être éprouvés, on découvre le Sauveur et sa grâce envers nous, pécheurs, plus profondément, et on fortifie les frères. Avec la seule chose qui peut les fortifier. Et ça, c'est la grâce du Christ crucifié. Dernièrement, prudence et préparation pour la proclamation du Sauveur. Nous lisons les versets 35 à 38. Je vais aller rapidement. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, marquez bien ces mots, un changement. Les choses vont pas se faire de la même façon. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Et de même, celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Et ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Qu'est-ce qu'ils ne réalisent pas? Ils ne réalisent pas que la vie et le ministère qu'ils ont eu pendant 3 ans va changer radicalement. Ils ont eu un moment d'euphorie, un moment paisible dans un sens de service au Seigneur, même s'il y avait des oppositions, le Christ était là pour tout encaisser, pour tout prendre sur lui. Mais maintenant, les choses vont changer et s'empirer. Beaucoup de gens font des erreurs terribles dans la vie chrétienne parce qu'ils lisent les évangiles et ils disent on peut et on doit faire les choses exactement comme les premiers disciples. C'est une horreur. Ils pensent que tout ce qu'on voit dans les évangiles doit se répéter tel. Je vous donne un petit exemple. Je connaissais une famille missionnaire en France qui, selon eux, vivait par la foi. Mais vivre par la foi, pour eux, et ils pensaient que tout missionnaire devait vivre comme cela, c'est ne pas avoir de bourse ou de sac. C'est-à-dire, ils n'informaient personne de leurs besoins de soutien. Comme ces disciples qui allaient dans une ville sans aucune idée de comment ils allaient être soutenus et devaient attendre tout simplement à quelque chose hautement surnaturel chaque fois. Et il y a des chrétiens qui pensent comme cela et qui pensent que un serviteur de Dieu qui fait savoir ses besoins, il emprunte un chemin qui n'est pas le meilleur, le bon. Mais remarquez que Jésus dit que ce qui devait se faire une fois ne doit plus se faire après. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et même celui qui a un sac. Les conditions du service changent, parce que le moment où Christ est visiblement ici dans la chair est un moment différent où Dieu manifeste certaines choses de manière différente. Je suis d'accord que peut-être le Seigneur appelle de temps en temps une personne à vivre de cette manière, sans sac ni bourse. Mais maintenant, c'est l'exception. Alors que, au vivant du Christ, c'était la règle pour les douze. Et il faut toujours la foi, même si vous faites savoir vos besoins. En tant que serviteur de Dieu, il faut des miracles pour que Dieu subvienne à ses besoins. Il faut que le Seigneur pourvoie. Ces miracles sont toujours présents, mais il agit d'une manière différente. Mais notre condition doit refléter le fait que le Christ n'est pas là. Et certaines tribulations et certaines difficultés que nous avons doivent être prises, car le Christ n'est pas là, comme il était. Il y a un petit problème dans ce passage qui perturbe beaucoup. C'est quand le Seigneur dit au verset 36 que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit de moi doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs. C'est-à-dire que je serai vu comme un malfaiteur et ça veut dire que vous allez désormais être vu comme des malfaiteurs. Et il va y avoir une opposition meurtrière. Meurtrière contre vous. Et nous pouvons penser à Lyon et à cet endroit où vous pouvez aller aujourd'hui où les chrétiens étaient exécutés en public. Mais Jésus n'est surtout pas en train de prôner un djihad en parlant d'épée. Loin de là. Nous savons que en Matthieu 26, 49, le Seigneur dit à Pierre qui utilise une de ses deux épées quelques moments, quelques heures plus tard pour frapper et enlever l'oreille d'un des serviteurs qui sont venus pour l'arrêter. Nous lisons aussitôt, il s'approcha de Jésus, donc Judas Iscariote, disant « Salut Rabbi » et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, donc Pierre, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jésus n'est pas pour l'utilisation de cette épée. Ce qui amène certains commentateurs à penser que Jésus parle figurativement, comme il faisait détruire ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, alors qu'il parlait de son corps. Alors qu'il parlait, faites attention au levain des pharisiens Les disciples disent, il est fâché qu'on n'a pas pris du pain. Or, il parlait de l'enseignement des pharisiens. Et il parle de l'épée. Et est-ce qu'il veut dire par là que, non pas littéralement, mais nous devons nous apprêter maintenant à une guerre terrible? Certains le pensent. En tout cas, deux épées pour 11 âmes n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et cette phrase, ça suffit, est peut-être ironique, comme pour dire, ça suffit ça. Ne me parle plus de ça. J'ai tendance à penser que probablement le Seigneur est en train de parler comme ça. Même l'idée de vendre son vêtement pour acheter une épée va complètement à l'encontre de toute logique par rapport à tout ce que Jésus a enseigné jusqu'ici. Ce que nous pouvons savoir, c'est que le Seigneur nous dit que dans notre chemin, nous devons nous armer de prudence et de préparation pour la souffrance. Lorsque nous proclamons le Christ, nous devons savoir que la route est parfois tortueuse et difficile. Voilà donc 5 choses que nous devons prendre avec nous: la foi dans le Sauveur crucifié, un service humble, une espérance dans nos retrouvailles avec lui, une endurance dans les épreuves par lesquelles nous apprenons plus profondément sa grâce et sa miséricorde, et une prudence et une préparation pour la guerre en proclamant son nom. Nous allons chanter, nous apprêter pour la scène, le numéro 120.
Sur ta tête sacrée.